Laudetur Jesus Christus.
Le pape à la rencontre de 60 000 Italiens, place Saint-Pierre ce matin. Tous sont membres de l'Action catholique. François est revenu sur l'étreinte de la charité, un dénominateur de la vie associative, a-t-il dit. Nous y revenons en détail juste après ces titres. Dans ce journal également, reportage dans un camp de réfugiés palestiniens en Jordanie où les accusations contre l'UNRWA, l'agence onusienne des réfugiés palestiniens, ont semé l'inquiétude. Nous irons aussi en Turquie où un peu plus d'un mois après sa réélection à la tête d'Istanbul, le maire de la ville, rival du président Erdogan, affronte une nouvelle audience au tribunal ce jeudi. Et puis direction également la Guinée, où les partis d'opposition et de la société civile tentent de s'organiser face à la junte militaire, accusée de retarder le retour à un gouvernement civil. Nous retrouverons notre correspondant à Conakry.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour. À l'appel de l'Action catholique italienne, pas moins de 60 000 personnes étaient réunies ce matin, place Saint-Pierre, pour une rencontre avec le pape François. Dans son discours, celui-ci a insisté, Jean-Benoît Harel, sur l'importance de garder les bras ouverts pour accueillir toute personne à l'image de l'étreinte du Père qui sauve.
Oui, Olivier, le thème de l'événement, à bras ouverts justement, a permis au pape de présenter le geste de l'étreinte, l'une des expressions les plus spontanées de l'expérience humaine selon lui, sous trois formes. D'abord, l'étreinte qui manque, qui se heurte à des résistances et provoque des drames. Oui, à l'origine des guerres, il y a souvent des étreintes manquées ou refusées, a-t-il insisté, encourageant les membres de l'Action catholique italienne à témoigner à tous que le chemin de l'étreinte est le chemin de la vie. Ensuite, l'étreinte qui sauve. François a demandé aux membres présents de s'inspirer de l'étreinte de Dieu le Père, image de la miséricorde et de la radicalité de l'amour. Laissons-nous embrasser par lui, comme des enfants, pour pouvoir embrasser nos frères et sœurs avec la même charité, a-t-il demandé. Enfin, pour illustrer l'étreinte qui change la vie, le Saint-Père a donné l'exemple de Saint François. Le Saint d'Assise a décidé en effet de tout quitter après avoir embrassé un lépreux. L'étreinte de la charité doit être le dénominateur commun de la vie associative, a-t-il conclu.
Jean-Benoît Harel, le pape qui a rencontré également dans la salle Paul VI au Vatican 1200 pèlerins hongrois ce matin. Ils sont actuellement en pèlerinage à Rome. Le Saint-Père s'est souvenu de sa visite apostolique en avril 2023 à Budapest et a demandé à ses fidèles de suivre, même dans le contexte historique actuel, l'exemple des saints et des bienheureux issus du peuple hongrois. Toutes ces informations sont évidemment à retrouver en détail à une seule adresse, vaticannews.va. Dans l'actualité internationale, les menaces toujours plus proches d'une offensive israélienne terrestre à Rafah, la grande ville du sud de la bande de Gaza, une cité déjà visée par des bombardements, une offensive et ce malgré les mises en garde de la communauté internationale. Une paix négociée vaut mieux qu'une guerre sans fin, rappelle le pape François, que ce soit pour le conflit au Proche-Orient mais aussi en Ukraine, dans des propos tenus dans une interview accordée hier après-midi à la chaîne américaine CBS. Alors que Catherine Colonna, l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, a présenté il y a quelques jours son rapport sur la neutralité de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens, en Jordanie où vivent plus de 2 millions de bénéficiaires. La perspective d'un arrêt du financement de l'agence a provoqué l'inquiétude dans les camps de réfugiés. Le reportage de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
La crainte d'arrêter le travail de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés continue de dominer des millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, en particulier avec la suspension de son financement par un certain nombre de pays donateurs sur fond d'accusations d'employés des personnes qui auraient participé à l'attaque du 7 octobre contre Israël. Les préoccupations des réfugiés en Jordanie ne se limitent pas à l'aide financière ou au secours, mais comme le dit le réfugié Abou Ahmed, la question s'étend à la fourniture de services d'éducation et de santé que l'UNRWA fournit aux réfugiés depuis environ 70 ans.
Ma famille et moi avons un dossier à l'UNRWA et mes enfants reçoivent une éducation de la première à la dixième année. Nous recevons des soins de santé dans les centres de santé du camp de Baka et du camp d'Al-Wadat, qui sont un peu éloignés de chez moi. Mais en fin de compte, l'UNRWA fournit des services éducatifs et de santé qui sont importants pour nous.
De son côté, le secrétaire du comité suprême pour la défense du droit au retour en Jordanie, Othman Al-Shohi, estime qu'Israël travaille de toutes ses forces pour éliminer complètement l'UNRWA en arrêtant son financement.
Il s'agit d'une des nombreuses tentatives visant à mettre fin à l'UNRWA.
L'une des tentatives consistait à définir un réfugié comme étant uniquement quelqu'un qui avait quitté la Palestine et à révoquer le statut de réfugié à ses enfants et petits-enfants. Nous avons récemment soumis une pétition de protestation aux Nations Unies pour soutenir le secrétaire général de l'ONU dans ses démarches pour défendre l'agence.
Selon les données de l'UNRWA, plus de 2 millions de réfugiés palestiniens enregistrés vivent en Jordanie, ce qui fait du royaume le plus gros pays d'accueil de toute la région.
Notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami. Un peu moins d'un mois après sa réélection à la tête de la plus grande ville turque, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, est une nouvelle fois au tribunal ce jeudi. Depuis sa première victoire en 2019, la justice turque a ouvert plusieurs procès contre cette figure de l'opposition et de son parti, le CHP social-démocrate. Ceux-ci estiment que ces procès visent à barrer la route de ce rival potentiel de Recep Tayyip Erdogan. Mais le désaveu suivi par le président turc au municipal du 31 mars pourrait mettre un terme à ces procédures. C'est en tout cas ce que veut croire Ekrem İmamoğlu à Istanbul, à Nandlower.
C'est le troisième procès qu'affronte Ekrem İmamoğlu depuis qu'il est maire d'Istanbul. Le premier, pour insulte, lui a valu une condamnation à 2 ans et 7 mois de prison, synonyme d'interdiction de mandat politique si la peine devait être confirmée en appel. Un autre procès pour insulte s'est terminé en acquittement. Cette fois, le maire est poursuivi pour corruption. Mais depuis sa victoire et celle de son parti, le CHP social-démocrate, au municipal du 31 mars, Ekrem İmamoğlu est devenu le grand favori de l'opposition pour la présidentielle de 2028. Interrogé tout récemment en conférence de presse, l'édile veut croire que le pouvoir, qui a la main sur la justice, mettra fin à ses poursuites. Et il le dit avec une image.
Si malgré le message très clair des Stambouliotes, ils veulent continuer à manger le même yaourt que ces 5 dernières années, c'est leur problème. Mais je suis très confiant dans le fait que la justice prendra sa décision sans faire d'erreur. Je m'attends à ce que la page de ce processus judiciaire se referme parce que ces procès n'ont aucune raison d'être.
Sans le dire ainsi, le maire d'Istanbul estime que le président Erdogan n'a aucun intérêt à le victimiser en le privant de son mandat, car cela risquerait de se retourner contre lui aux prochaines élections. À Istanbul, Anand Loire pour Radio Vatican.
L'Europe a été au rendez-vous de ses défis ces dernières années. Les mots d'Emmanuel Macron ce matin depuis la Sorbonne, 7 ans après un premier grand discours dans la prestigieuse université parisienne, le président français y a prononcé tout à l'heure un nouveau grand discours axé cette fois-ci sur la défense de l'Europe. Notre Europe qui est mortelle, nous sommes à un moment de bascule, a encore souligné le chef de l'État français qui a pointé notamment un réveil trop lent, selon lui, du continent dans son réarmement face aux grandes puissances, Russie en tête. Nous y reviendrons dans notre édition de 18h. Direction la Guinée, où le spectre d'une nouvelle crise politique plane sur le pays. La junte au pouvoir ne semble plus capable d'organiser les élections telles que prévues par l'accord avec la CDAO pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et plusieurs dizaines de partis politiques et d'organisations de la société civile se sont mis en coalition pour dénoncer le pouvoir. La correspondance à Conakry d'Emmanuel Milimono.
Les premières levées de boucliers ont commencé dès l'annonce du Premier ministre qui disait qu'aucune élection n'aurait lieu en 2024, excepté le référendum, ce qui est contraire au chronogramme de la transition que la junte a signé avec la CDAO et qui fixait au 31 décembre 2024 la date de fin de la transition et le transfert du pouvoir à des autorités civiles élues. Ces atermoiements ont fait naître une grogne au sein de la classe politique et des organisations de la société civile qui soupçonnent désormais les militaires de vouloir confisquer le pouvoir en dépit de toutes les promesses qui ont été faites le 5 septembre 2021 lors du coup d'État. Pas plus tard que lundi 22 avril, la coalition des partis politiques et des organisations de la société civile a menacé de reprendre les manifestations de rue. L'ensemble de ces structures appelées désormais Union Sacrée a tiré la sonnette d'alarme à travers une déclaration. À défaut d'obtenir la satisfaction de ces revendications, les signataires de la déclaration se réservent le droit d'exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile capable d'organiser dans un délai raisonnable des élections crédibles permettant au peuple guinéen de choisir librement ses dirigeants, peut-on lire dans la déclaration. Emmanuel Milimono, Conakry, pour Radio Vatican.
La République démocratique du Congo accuse le groupe Apple d'utiliser des minerais produits illégalement dans ses produits, des minerais stratégiques qui, selon Kinshasa, seraient transportés hors de la RDC vers le Rwanda pour être blanchis. Le gouvernement de Kinshasa accuse le Rwanda de vouloir faire main basse sur les ressources minières, notamment de l'Est congolais. Une des raisons pour lesquelles, selon lui, Kigali soutient la rébellion du M23 qui déstabilise le Nord Kivu. Et puis avant de refermer ce jour, journal Le Patrimoine chrétien arménien toujours plus menacé, l'ONG L'Œuvre d'Orient fait part de sa profonde tristesse après la destruction d'une église du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Témoignage de l'histoire multiséculaire de la région, l'église Saint-Jean-Baptiste a été délibérément rasée. Une destruction qui est une poursuite du génocide de 1915, dénonce L'Œuvre d'Orient. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Ce soir à 18h, vous aurez rendez-vous avec Alexandra Siergan. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.